faire une petite présentation rapide. Donc, Dana Diminescu, vous êtes sociologue. Si je dis des bêtises, vous m'arrêtez. Enseignant-chercheur à Télécom Paris Tech. Et vous avez fondé, vous dirigez depuis 2003 le programme Migration et Numérique. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles vous avez été convié à cette table ronde, qui est un programme de la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme.
Ça a été.
Ici. Et vous faites des recherches sur la mobilité, sur la communication à distance, sur les stratégies d'intégration en relation avec l'usage des technologies de l'information et de la communication, sur l'archivage, la cartographie du web et des e-diasporas, vous en direz plus là-dessus, sur les frontières informatiques et sur les nouvelles formes d'économie ethnique. Et vous avez notamment coordonné et conçu l'Atlas des e-diasporas qui a été primé en 2012 au Digital Humanities Award.
Cette année, par l'INATEC. La dernière thèse a eu le prix de l'INATEC.
Bravo, bravo. Alors, Geneviève Vidal, vous allez intervenir en duo avec Virginie Pringuet. Ça ne vous dérange pas de ne pas être l'une à côté de l'autre, c'est bon comme ça. Vous êtes enseignante chercheur HDR en sciences de l'information et de la communication. Vous faites des recherches sur les usages et les appropriations des technologies de l'information et de la communication numérique, en particulier, plus particulièrement dans le secteur des musées. Et vous étudiez les enjeux sociopolitiques de tout cela dans le contexte d'une informatisation intensive de notre société. Et dans un axe sociopolitique de votre travail, vous développez le concept de, je cite, « renoncement négocié », dont vous nous direz quelques mots tout à l'heure. Et vous avez publié des ouvrages et des articles sur la médiation numérique muséale et la sociologie des usages. Virginie Pringuet, vous êtes docteur en esthétique. Vous êtes chargée de la coordination du réseau UDPN, auquel appartient Geneviève aussi, usage des patrimoines numérisés, qui est à Paris 3. Et vous avez, et là vous avez un profil, je trouve, extrêmement intéressant et original, puisque vous avez fait beaucoup de programmation artistique dans différents festivals et établissements culturels. Et donc, on peut en citer quelques-uns. À Montréal, pour le Festival du Nouveau Cinéma, Paris, Nuit Blanche, Nantes, Scène Nationale, Le Lieu Unique. À Lille aussi, au moment où Lille était capitaine européenne de la culture. Et vous alliez ça à une recherche en humanité numérique. Et vous avez conçu dans cet esprit et vous pilotez depuis 2011 le projet Atlas Museum, dont vous nous montrerez à quoi il ressemble, et vous nous direz quel est exactement son concept et son contenu. Et c'est un projet en partenariat avec le ministère de la Culture, alors pas ma direction des patrimoines, mais la direction générale de la création artistique. Et vous êtes depuis 2019 médiatrice dans le cadre du programme Les Nouveaux Commanditaires de la Fondation de France. Alors, Marc Renneville, on se connaît aussi dans d'autres contextes. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes un membre du Centre Alexandre Coiré et vous êtes un historien du crime, un historien des savoirs sur le crime et le criminel. Vous êtes aussi spécialisé en humanité numérique et vous êtes actuellement directeur d'une unité mixte de services et de recherche, Clamor, Centre pour les humanités numériques et l'histoire de la justice, après avoir été le premier directeur de la très grande infrastructure de recherche Humanum, que nous connaissons tous ici entre 2013 et 2015. Et vous dirigez le projet Criminocorpus. Alors, c'est un site, avec Corinne, on se disait que c'est peut-être, je ne sais pas si on peut le dire, mais on a grand plaisir à visiter ce site, Criminocorpus, qui est à la fois fascinant par sa technologie et bien sûr par son contenu. Il a été créé en 2003, mais ouvert en 2005, c'est ça ? Et c'est une plateforme extrêmement innovante de publication en accès libre, qui est dédié à l'histoire de la justice, des crimes et des peines, et qui est composé de trois suites. Vous avez publié sur tous ces sujets. Et il y a aussi un blog, un carnet blog d'actualité de l'histoire et des questions judiciaires que vous animez. Et vous avez aussi été à l'origine d'un très beau documentaire qui s'appelle Rue du Cherche-Midi, à l'occasion des 150 ans de l'histoire pénitentiaire et de justice de cette rue du Cherche-Midi.
Quel est le lieu
aujourd'hui, beaucoup
qui
de
est à la fois
Parisiens
lié à Victor Hugo,
ont perdu,
à l'affaire Dreyfus?
enfin, perdu la mémoire de ce qui s'y passait. Mes pages. Patrice Pognan et Amou Fadili, vous. Alors, je ne savais pas s'il fallait dire Pognan ou Pognan. Je suis désolé. Pognan, c'est bien. Ben oui, donc Pognan alors. Non, je sais pas. vous avez conçu le Wiktionnaire franco-arabo-berbère, dictionnaire de sciences sociales et humaines pour les chercheurs du Maghreb et de l'espace francophone, dans le cadre du programme FSP Maghreb. La Fondation Maison des sciences du patrimoine a lancé le projet d'un dictionnaire des sciences humaines et sociales, multilingue, multiculturel, en collaboration avec le CEDRIC, qui est du Conservatoire national des arts et métiers. Et l'idée, c'est de favoriser, bien sûr, vous développerez tout cela, les échanges entre chercheurs maghrébins et entre chercheurs français, et mettre en commun des savoirs entre les deux rives de la Méditerranée. Et ça me touche particulièrement du fait de mon histoire familiale. Et de fournir une base de réflexion sur les pratiques lexicales en vigueur dans ces différents contextes scientifiques et culturels. Donc, Patrice Pognan, vous êtes professeur émérite à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO, membre de deux équipes de recherche, PLIDAM INALCO et UFAL à l'Université de Prague. Et vous êtes spécialiste de la grammaire des langues slaves de l'Ouest et de leur traitement automatique. Et vous avez travaillé, par exemple, aussi sur une lexicographie et une analyse automatique du berbère. Et vous êtes webmestre de l'encyclopédie des littératures écrites en langue africaine. C'est extrêmement impressionnant. Combien de langues parlez-vous?
L'encyclopédie, nous collaborons à cette encyclopédie.
D'accord. Voulez-vous présenter en deux mots, monsieur, peut-être? On va vous donner un micro.
Il n'y a pas grand-chose à dire sur moi. C'est-à-dire, bon, je suis Aliou Mohamadou, je suis professeur de PEL à l'INALCO. Donc, j'ai participé à la création de ce projet d'encyclopédie des littératures en langues africaines. C'est-à-dire, nous voulons bien souligner que les littératures ne sont pas que écrites, qu'elles sont d'abord orales, et ensuite, il y a des littératures écrites. Donc, bon, c'est un projet ANR qui est maintenant, disons, géré par Patrice, un comité où nous participons, où nous associons beaucoup de chercheurs africains et français. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus.
N'hésitez pas en tout cas à intervenir dans le débat tout à l'heure quand vous le souhaitez. Alors, Amou Fadili, vous êtes ingénieur docteur HDR et vous êtes membre du pôle recherche et prospective Axe Humanité Numérique de la Fondation des sciences de l'homme de Paris, où nous sommes. Et vous êtes responsable technologique et membre du conseil scientifique du programme France Maghreb de la FMSH, membre du laboratoire Centre d'études et de recherche en informatique CEDRIC au CNAM. Et vous êtes en collaboration avec l'équipe CITU, paragraphe du département des humanités numériques de l'Université de Paris 8, membre du groupe AFNOR, Commission Intelligence Artificielle. Ça se normalise. Et auteur de plusieurs publications sur lesquelles vous reviendrez peut-être si vous le souhaitez. Et Renan Mouren, vous êtes ingénieur de recherche, docteur qualifié en sciences de l'information et de la communication, Vous avez soutenu une thèse sur les immédiations territoriales en travaillant plus particulièrement sur la Seine-Saint-Denis, si j'ai bien compris. Et le titre en est « Modélisation et mise en ressources numériques entre espaces informés et espaces géographiques », et cela sous la direction de Ghislaine Azémar à Paris 8. Et donc, vous étudiez la question centrale de l'immédiation, sur laquelle on reviendra, qui est une sorte d'objet frontière entre différentes disciplines, comme on les aime tant, parce que ça stimule toujours la recherche et qui fonctionne comme une matrice, dites-vous, d'interprétation du territoire, à partir de laquelle s'élabore un canevas théorico-pratique. Depuis 2005, avec l'équipe de recherche l'EDEN, on dit comme ça, de Paris 8, MSH Paris Nord, vous travaillez à la réalisation de web documentaires scientifiques et au développement de dispositifs numériques cross-média de médiation territoriale pour la région Île-de-France et le Conseil général de la Seine-Saint-Denis et les établissements publics de coopération intercommunale, pleine commune, Est ensemble. Et depuis 2010, donc vous enseignez à plein d'endroits, je ne sais pas, c'est en même temps. Bravo. Depuis 2010, vous enseignez les sciences de l'information et de la communication à Paris 8, qui est votre maison. Depuis 2012, au master conception audiovisuelle de l'INA. Et depuis 2015, à l'IUT métier du multimédia et de l'Internet, et licence MetWeb. Métier du web, c'est ça, de Versailles Saint-Quentin. Très bien. Et la chaire ITEN, Innovation, Transmission et Édition Numérique, UNESCO, a été ITEN. Fondée en 2012 sous l'impulsion de votre directrice de thèse, Ghislaine Azémar, c'est ça, et qui est elle-même professeure des universités en sciences de l'information et de la communication, est placée sous le haut patronage de cette maison dans laquelle nous nous trouvons, de la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme, et qui, 2 ans plus tard, est devenue une chaire UNESCO, UNESCO ITEN, labellisée par l'UNESCO et membre actif du réseau Orbicom des chaires internationales en sciences de l'information et de la communication.
Juste pour une précision, la chaire UNESCO ITEN a une double tutelle, hein, la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et l'Université Paris 8.
D'accord. Donc là, il me manque quelqu'un.
Hélène Després.
Alors.
Donc moi, je suis Hélène Després. Donc je suis ingénieure de recherche au sein de la chaire UNESCO ITEN. J'effectue en fait une recherche autour des interfaces. Actuellement, donc je travaille à la direction scientifique du projet Data Musée, qui est un projet donc FUI, mené en partenariat avec différents gros partenaires de recherche comme Mintelecom, mais aussi des entreprises privées spécialisées de l'intelligence artificielle. J'ai travaillé moi aussi au sein du laboratoire précédemment du programme de recherche l'EDEN autour de différents types de projets, donc pour les collectivités territoriales, mais aussi pour le ministère de la Culture, à la réalisation d'une plateforme sur les meilleures pratiques en termes d'innovation et pour les bonnes pratiques pour les dispositifs numériques au sein des musées. Et j'enseigne moi aussi à la fois donc, en master création édition numérique à l'Université de Paris 8, où j'ai été longtemps professeur associé, presque une vingtaine d'années, et également à l'Université de Paris 13 au sein du master d'IMI, mais également donc, à l'INA et à l'École des Gobelins. Voilà.
Merci beaucoup. Comme nous sommes nombreux du côté des intervenants, relativement peu nombreux du côté du public, je vous propose que nous organisions une discussion la plus informelle possible. Je pense que c'est comme ça que ce sera le plus intéressant. À l'occasion, on pourra montrer quelques images quand le moment sera venu, quand vous le souhaiterez, très rapidement. Mais je pense que les images ne doivent pas prendre le pas sur nos échanges, si vous en êtes d'accord. Et donc, je vous avais proposé, un peu tardivement, et je vous prie de m'en excuser, on est tous très, très, très pris, n'est-ce pas, d'organiser notre débat autour de trois axes, qui ne nous dispense pas évidemment d'envisager d'autres thématiques ou des déclinaisons de ces thématiques. Le premier axe portant autour, ça me semblait assez logique de commencer par les pratiques de recherche et les outils numériques, c'est-à-dire ce que les outils numériques ont fait à la recherche et ce qu'on appelle les humanités numériques. Alors les outils numériques jusqu'à l'intelligence artificielle aujourd'hui, dont on parle beaucoup, sans d'ailleurs toujours savoir exactement de quoi il s'agit. Et puis, de voir dans un deuxième temps peut-être le rôle du numérique dans les processus de patrimonialisation, parce que le thème de cette table ronde, c'est le rapport entre numérique et patrimoine. Et je pense que le numérique, et je suis sûr que vous aurez plein de choses à dire là-dessus, a beaucoup modifié ces processus que Sylvie Sagne, par exemple, a étudié par ailleurs depuis plusieurs années. Et elle pourra intervenir, je pense, d'une manière intéressante à ce moment-là. Et puis, Marc Renville m'a suggéré une interrogation qui m'a semblé vraiment intéressante et qu'on pourra partager, le numérique, technique ou langage. Et puis, on pourra évidemment évoquer la question tout à fait centrale des usages et des perspectives des médiations numériques, avec plus particulièrement le travail de Geneviève Vidal. Mais je pense que c'est un sujet aussi qui intéresse beaucoup d'entre vous. Sur les humanités numériques, les pratiques de recherche et les outils numériques, j'avais envie, Dana Diminescu, de vous donner la parole peut-être en premier. Vous avez écrit un article très, à la fois court et très intéressant, très dense, comme j'aime bien, avec Michel Viviorca dans la revue Socio en 2015, le numéro 4 de la revue, où vous montrez comment le numérique interroge le fonctionnement des sciences sociales. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être développer un peu votre pensée sur ce thème du rapport entre recherche, sciences sociales et numérique?
D'une manière très brève, parce que je vais prendre tout le numéro était dédié en fondation. C'était un numéro qui s'appelait le tournant numérique dans la revue Socio, et donc on traitait plusieurs aires de la discipline, sociologie, mais qu'est-ce que ça fait aussi en géographie, qu'est-ce que ça fait dans l'histoire, etc. Ouais, pour ma part, j'ai vu strict pour la migration, par exemple, comment on est passé d'une sociologie plutôt centrée au début sur l'usage de nouvelles technologies, on est passé à une sociologie numérique des migrations. Donc ça, c'est un changement qu'il faut bien saisir. Peut-être que les historiens ne sont pas tellement dans ce cas-là, parce qu'ils travaillent en général sur des documents, des archives qu'on peut numériser, qu'on peut ensuite adapter, etc. Aussi, on crée des archives nouvelles aujourd'hui. Mais pour un sociologue des migrations que je suis, ça, c'est un grand changement. Comment on est passé d'une observation en situation à travailler carrément sur les traces numériques que les gens laissent. Quand je parle de la sociologie du numérique, de la théorie, digital theory, de migration, c'est un peu ça. Donc on change tout le paquet de méthodes par lesquelles on a abordé un sujet. Dans mon cas, c'était la sociologie de migration. Donc je ne donne que cet exemple, mais elle peut, bien entendu, faire modèle pour beaucoup d'autres disciplines et pour d'autres cas.
Oui, Marc Pognon.
Je pense qu'il serait souhaitable de revenir en arrière. Humanité numérique semble être une nomenclature récente qui est un calque de l'anglais, quelque chose du style Digital Humanities. Mais je souhaiterais rappeler que dans les années 1970, déjà, dans ce bâtiment, au deuxième sous-sol, il y avait un laboratoire qui s'appelait le LICH, laboratoire d'informatique pour les sciences de l'homme. Et il s'y est fait un travail absolument considérable en sociologie, en linguistique, traitement de la langue, traitement des manuscrits. Je me souviens de gens comme Jean-Louis Lebrave ou Agnès Guillaumont qui travaillaient sur l'édition automatique de manuscrits. Et on était déjà pleinement dans des humanités numériques. Alors, pour moi, les humanités numériques, elles commencent à la conjonction de deux disciplines, à savoir l'informatique et la linguistique, pour pouvoir traiter une des particularités de l'homme, à savoir son langage, qu'il soit écrit ou qu'il soit parlé. Et à l'heure actuelle, ce que l'on voit ressurgir, remise à la mode, comme vous l'avez dit, pour l'intelligence artificielle, parce que c'est le même processus, on a eu de l'intelligence artificielle dans les années 75, avec Tadjian, Yorick Willis ou d'autres, Shank, et puis ça a disparu, et puis à l'heure actuelle, tout ça ressort, mais de manière seconde, de manière ailleurs, et je pense qu'il est bon dans l'histoire de des humanités numériques de tenir compte des disciplines fondamentales. Pour moi, ce que l'on va discuter aujourd'hui, et on le voit très bien avec ce que vient de dire notre collègue, on est par des gens qui éventuellement ne sont pas des spécialistes de ces disciplines, de la découverte des potentialités de l'informatique pour leur propre discipline. Et ça donne quelque chose de nouveau qui est très intéressant, où l'on va construire des systèmes en mêlant la langue écrite, le texte, la parole, le son et l'image. Et là, on a une nouvelle définition des humanités numériques et qui prennent une extension dont, pour le moment, je crois, on ne voit pas les limites. Donc, voilà.
Je peux juste rajouter quelque chose. J'ai pas discuté, je travaille avec Patrice, mais on n'a pas discuté de ce sujet-là aujourd'hui. Ce que disait Patrice, c'est vrai, mais je me posais une question. Moi, en travaillant un peu sur les humanités numériques, est-ce qu'on peut parler d'une deuxième vague ou une deuxième version, une V2, sur des humanités numériques? Parce que je pense que la version dont parlait Patrice tout à l'heure est une version où on traite du document, donc du document dans sa totalité. Voilà, donc on utilisait des techniques classiques, par exemple de recherche en plein texte, etc. Alors que maintenant, on essaye de regarder, d'ouvrir la boîte et de regarder d'analyser le document. Par exemple, si on travaille sur le texte, l'idée maintenant dans la nouvelle génération des humanités numériques, c'est de travailler, de faire du texte mining, de la sémantique, etc., mais de manière automatique. Travailler sur ce qu'on appelle la compréhension automatique, par exemple, des textes. Je peux provoquer peut-être en disant si ça existe, pourquoi on continue encore à fouiller, à faire des recherches. D'ailleurs, le retour de l'intelligence artificielle maintenant est revenu spécialement sur ce point-là, donc sur vraiment l'analyse sémantique des données textuelles ou la compréhension automatique des textes. Et c'est un champ qui est dans ses débuts. Donc, on le voit donc avec les GAFA, etc., qui reviennent. Oui, ils s'investissent massivement, donc probablement en France maintenant avec le grand discours. Vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment dans ses débuts. On ne peut pas dire que c'est quelque chose vraiment qui a bien avancé. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, au départ, donc dans les années 70, j'ai l'impression qu'on traitait vraiment de documents entiers, donc on avait des métadonnées, etc., mais on ne faisait pas de l'analyse textuelle profonde, mais peut-être pas assez avancée. Donc on peut rentrer en détail après, peut-être sur comment.
Prenez le micro pour l'enregistrement.
La différence, c'est que les Américains ont su nommer, trouver une nomenclature à ce que d'autres faisaient. Et c'est là leur génie, c'est ce que nous ne savons pas faire. Mais à mon avis, il y a une continuité. Il n'y a pas d'interruption entre les années 60, 70, 80 et maintenant. Simplement, il y a un élargissement fantastique de ces activités.
Oui, moi, c'est juste une question ou quelque chose qui pourrait, enfin, illustrer ou participer de votre débat. Il y a quand même Kemada et l'équipe du Trésor de la langue française. Et ça, ça date, à mon avis, de cette époque. Et c'est vraiment un grand souffle au niveau de... Ça a révolutionné énormément de choses au niveau de la lexicographie. Parce que pour une fois, on va manipuler la documentation du Moyen-Âge jusqu'à...
Alors, peut-être Renan Mourin, V1, V2, V3 des humanités numériques, on en est où?
Moi, j'aimerais bien réagir sur la notion de document, déjà, aussi, parce que ce qu'on appréhendait ou ce qu'on considérait comme étant un document potentiellement archivable ou stockable dans les années 70 s'est transformé aussi. On parle beaucoup aujourd'hui de l'homme-document. par l'ensemble des données hein, qu'il inscrit, qui peuvent être mémorisées, qui peuvent être stockées. Avec l'Internet des comportements, on voit apparaître aussi une écriture des comportements. Hein, donc, on voit que la notion de document se transforme. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la notion de territoire document aussi, hein, dans des approches multiscalaires. Et je pense que là, effectivement, il y a peut-être, dans une continuité, une évolution de la notion de document, en tout cas. Ouais.
Et vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur cette relation avec le territoire, justement, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau, me semble-t-il.
Oui, alors on peut le lien en tout cas avec le territoire peut être pris par différents angles. On peut prendre effectivement l'angle du patrimoine hein, qui nous intéresse ce soir. Si on creuse cet axe-là, on peut voir que par exemple un certain nombre d'outils aujourd'hui peuvent permettre de co-décrire, co-construire ce qui fait patrimoine pour des habitants, pour une population. Pas forcément dans une logique top-down hein, qui est définie par l'État ou par des institutions supranationales qui diraient voilà, ceci doit être labellisé comme étant un objet patrimonial, mais on voit émerger des possibilités de co-définition par le bas, par les habitants, de ce à quoi ils tiennent, ce qu'ils aimeraient décrire, ce qu'ils aimeraient faire, transformer en tant que document qui puisse être indexé, qui puisse être renseigné avec des métadonnées, qui puisse être protégé et qui puisse être écrit. Donc le lien, en tout cas, avec l'approche territoriale et pour le rejoindre un petit peu à l'objet de notre rencontre ce soir, moi, je le prendrai un peu de cet angle-là. Quoi.
Oui, tout à fait. Et ce lien, d'ailleurs, enfin, ce nouveau mode de constitution d'objets patrimoniaux a considérablement, par exemple, impacté l'action même des professionnels du patrimoine sur le terrain.
Voilà, par exemple, juste un truc, c'est que nous on travaille vraiment dans une logique tout le temps avec l'équipe du LEDEN et de la Chironesse Coïtaine, vraiment dans une logique tout le temps multi-acteurs. Quoi, hein, donc on a à la fois un continuum d'action et un continuum d'acteurs. Donc un continuum d'action entre la recherche, l'expérimentation et la formation, et un continuum d'acteurs aussi entre les collectivités territoriales, hein, qui peuvent être les élus, les fonctionnaires qui travaillent, les métiers hein, des collectivités territoriales, les entreprises, qu'elles soient locales ou multinationales aussi, qui interviennent sur ces territoires, et puis les académiques, les universitaires, les chercheurs, qui ont de plus en plus une responsabilité sociale des universités, et qui doivent s'investir justement dans cette co-définition de ce qui fait patrimoine, dans ce travail sur l'unité, l'identité des territoires. Quoi.
Et là, aujourd'hui, à la chaire UNESCO-ITEN, on réfléchit avec la communauté urbaine de Dunkerque à sauvegarder ce patrimoine immatériel du carnaval. Et l'idée serait, comment est-ce qu'on peut sauvegarder un patrimoine vivant, une expérience à vivre, qui est partagée par 200 000 habitants ? Et avec l'idée éventuellement même d'une mise en place de blockchain pour une traçabilité du dépôt des documents, un eurodatage, etc. Et une participation plus horizontale à cette patrimonialisation dont vous parlez.
Alors Virginie Pringuet, votre double casquette fait que vous avez un usage du numérique qui est peut-être un petit peu différent.
C'est vrai. Alors moi, j'ai toujours été un peu à la frontière entre justement art contemporain ou performance et numérique. Et finalement, c'est en faisant une thèse sur justement la cartographie de l'art dans l'espace public, j'ai un peu rejoint les deux problématiques. Et alors, je voulais réagir justement sur ces différentes périodes ou étapes des humanités numériques. Je voulais signaler justement le travail théorique d'Anthony Mazur dans le champ du design, au sens large, où lui, il a déterminé trois phases justement, de relations entre design et humanité numérique. Déjà, un peu définir ce que c'est que le design, parce que finalement, on fait tous du design quand on fait des interfaces ou même du design de données, on peut pour la structuration des données. Lui pense qu'on est dans une troisième phase des relations design-humanité numérique qui consiste justement à utiliser ces outils, enfin utiliser les humanités numériques de façon critique, donc, utiliser les outils et en même temps développer une réflexion critique sur les outils que les chercheurs ou le public utilisent. Et aussi, enfin, il y a entre les années, enfin, dans le continuum justement de la technologie depuis les années 60-70, il y a quand même un moment qui est justement l'avènement, par exemple, on parle dans l'histoire de l'art, par exemple, d'un tournant géographique, avec justement l'accès et la massification des outils, par exemple des SVG ou des outils qui étaient très spécialisés, vraiment réservés aux chercheurs, qui sont rentrés. Alors le GeoWeb, justement, tout le monde s'est mis à cartographier des données, et la notion de patrimoine a totalement muté, puisque tout devient patrimoine, finalement, patrimoine individuel, personnel, les photos de famille, jusqu'à des pratiques. Alors là, pour enchaîner sur la réflexion que le réseau UDPN mène depuis 2014, c'est un peu justement cette frontière entre usage et pratique, donc usage de patrimoine numérisé vers des pratiques de patrimonialisation en environnement numérique.
Donc, voilà. Sur ces questions de patrimonialisation, on reviendra peut-être plus longuement tout à l'heure avec vous et puis aussi avec Geneviève, avec tout le monde. Marc Grenville, on a parlé de textes, d'images, de sons. C'est tout ce qu'on trouve sur le site que vous avez créé. Mm-hmm. C'est un outil extraordinaire de co-construction aussi d'un patrimoine.
Oui. Et je voudrais peut-être revenir sur puisque je joue l'historien, sur justement le temps que vous avez rappelé, que je crois très important, c'est que les humanités numériques, c'est aussi d'abord l'informatique. Que si on remonte au rapport des sciences humaines avec l'informatique, effectivement, on est dans les années 50-60, on commence avec les fiches perforées. Et ça correspond à un premier âge d'or, parce qu'en tout cas, pour les historiens, ça correspond aussi au paradigme de l'histoire quantitative, de l'histoire sérielle, et d'une façon de concevoir une épistémologie de l'histoire qui n'est plus tout à fait la nôtre. Il y a un deuxième temps, qu'on oublie, mais qui, à mon avis, a été très important, qui est un temps de démocratisation de l'informatique par ce qu'on appelle l'ordinateur personnel, qui permet d'avoir son traitement de texte, de perdre beaucoup de données d'ailleurs, parce qu'on ne les sauvegarde pas bien, mais enfin, il se passe dans les années 80-90, où il y a une sorte de démocratisation entre une informatique qui était quand même très réservée, très, très confinée à des experts, et une informatique qui commence à être appropriée par plus de monde. Et je crois qu'on est dans un troisième temps qui fait effectivement rupture avec le développement du web, où on est cette fois-ci dans une société informatisée. C'est-à-dire que nos discours s'adressent à des personnes qui partagent cette informatique, qui sont capables de réagir, voire de contester ce que l'on fait, ou en tout cas, dans le meilleur des cas, de co-construire. Et ça nous interroge quand même sur... il y a quand même une grande distance entre les fiches perforées qui nous donnaient un savoir qui était incontestable, quasiment, et puis ce qu'on va mettre en ligne. Et si on l'ouvre aux commentaires, on va devoir gérer des commentaires qui vont se rapprocher beaucoup de ce qu'on appelle de nos jours les fake news, mais qu'on connaissait aussi déjà... avant. Donc je crois qu'il y a ce rapport à notre travail qui a beaucoup changé en fait avec l'informatique. Après, quand même, pour répondre à la question sur le fait
qu'il y ait... avant, parce que ça me fait penser, peut-être vous pourriez nous dire deux mots sur cette aventure extraordinaire du Manum dans cette histoire des humanités numériques, oui. Avec le recul maintenant.
Avec le recul, oui, parce que j'en suis sorti. Non, avec Humanim a été une formidable aventure, relativement brève pour moi, parce que je suis parti d'un chantier où il fallait réunir ce qu'on appelait à l'époque IR Corpus et puis le TGE Adonis, qui ne fonctionnait pas vraiment ensemble. Et ce qu'on a essayé d'imaginer, c'était... Enfin, il y avait toujours un dilemme qu'on a résolu avec Humanim, qui était d'avoir d'un côté les chercheurs qui voulaient faire de l'informatique, et puis de l'autre côté, des ingénieurs qui maîtrisaient la technique. On a eu des hybrides, et il y en a encore, c'est-à-dire des chercheurs qui codent et qui peuvent se débrouiller en partie tout seuls, mais je pense qu'ils seront de plus en plus rares parce que la technicité a beaucoup augmenté. Et il y avait une hésitation entre avoir le syndrome du guichet, c'est-à-dire qu'on aurait une super structure avec des ingénieurs hyper performants devant lesquels les chercheurs seraient allés à déposer leur dossier en disant « Voilà, tu me fais un truc en humanité numérique, je reviens dans 15 jours ». Et puis, les informaticiens qui se défendent en général, et je les connais assez pour savoir que c'est une pratique qui est devenue un sport, qui disent « Non, on ne peut pas parce que c'est trop compliqué » ou alors « Tu n'as rien compris » ou « Ça, c'est beaucoup trop compliqué ». Donc, Humanum, l'idée, c'était de co-construire en fait, ce travail, de dire aux chercheurs « Jamais vous ne vous en sortirez si vous ne mettez pas un peu de votre intelligence au service du projet » et de dire aussi aux informaticiens qu'ils ne pouvaient pas rester enfermés dans leur technicité si, si on voulait travailler ensemble. Donc Humanum, c'est donc une économie d'échelle aussi, parce qu'il y a eu un temps où, il y a une dizaine d'années, on pensait qu'il fallait un ingénieur par projet ou un ingénieur par laboratoire. Et on s'est très vite aperçu aussi d'expérience que la mutualisation permettait un maintien à flot technique, qui n'était pas le cas quand on avait des ingénieurs isolés. Donc Humanum rassemble une force de frappe conséquente et propose de mutualiser un certain nombre de solutions de base, mais qu'on ne pouvait pas avoir avant, en fait, finalement, quand on réfléchit bien. Au début du web, il n'y avait pas de... Moi, je me souviens d'avoir codé avec Code Expert ou en code direct HTML. On n'avait pas de solution comme ce qu'on appelle maintenant les CMS, c'est-à-dire des éditeurs de contenu qui font que quasiment n'importe qui est un tout petit peu débrouillard sans connaître une seule ligne informatique peut nous mettre en ligne un petit journal avec un blog, ou etc. Donc, ce qu'apporte Humanum, c'est ça, c'est de dire, attendez, il y a quand même un niveau de base où on ne va pas perdre d'argent ni de temps, on va vous assurer le blog, ça c'est Open Edition, on va vous assurer la collection de documents, ce sera un Omeka, etc. Et on gagne beaucoup de temps, on gagne beaucoup d'argent aussi, notamment la question de l'hébergement des serveurs, toute la question de sécurisation des données aussi, qui est extrêmement importante, qui a des coûts invisibles pour le chercheur, mais s'il devait le financer sa propre recherche, il sera obligé d'arrêter avant même de commencer, tellement ses coûts sont importants. Donc la TGR Humanum et aussi, je pense, à Open Edition ont vraiment complètement changé le paysage en permettant aux chercheurs d'être débarrassés, je dirais, des 4-5 premiers pas dans les humanités numériques, qui sont souvent les plus coûteux. Et du coup, de pouvoir se consacrer d'abord à leur recherche, qui est essentielle. Et c'est pour ça que je parlais aussi de banalisation ou innovation. Il y a toute une partie de l'informatique maintenant qui s'est banalisée. Et c'est vraiment une grande chance pour les chercheurs, je trouve.
De ce que je vois, ça m'inspire une petite remarque dans mon travail au ministère de la Culture, c'est qu'on n'obtient jamais d'aussi grandes avancées en humanité numérique et en ce qui me concerne en numérique appliqué au patrimoine que lorsque les projets sont co-construits, co-définis entre, par exemple, des historiens de l'art, des archéologues et des scientifiques du numérique. Et là, ça permet vraiment cette interdisciplinarité réelle et vécue, mais très en amont du projet, d'obtenir des résultats tout à fait novateurs et pertinents. Je ne sais pas si vous avez cette vision des choses.
Oui, parce que j'ai beaucoup travaillé quand on a créé aussi le Crime de Corpus au service des chercheurs. Et à chaque fois, ils me disaient, mais j'y connais rien en informatique. Je me dis, non, mais ce qui compte, c'est que tu sois bon dans ta discipline. Et les projets les plus innovants qu'on ait faits venaient de collègues qui ne connaissaient pas grand-chose d'informatique, mais qui étaient très forts dans leur domaine. Je pense à des travaux avec de la statistique qui avaient été publiés sous forme de brochures, qu'on a remis sous forme de base de données. Mais si le chercheur n'avait pas été là pour nous dire « mais tu ne peux pas mettre la continuité sur cette série ou tu ne peux pas faire ceci, cela », eh ben, l'informaticien nous aurait sorti des graphiques magnifiques, mais qui, du point de vue épistémologique, avait quand même des sacrées limites en termes de visualisation de données.
Oui, c'est ça. On voit des informaticiens qui sollicitaient peut-être pas au bon moment ou qui n'ont pas cet esprit d'ouverture, arriver avec des solutions toutes faites qu'on essaie d'adapter plus ou moins bien à la problématique scientifique en question. Et est-ce qu'il y a sur ce sujet des réactions dans le public?
Je voudrais réagir à Humanum. Je suis un double utilisateur d'Humanum et je suis un utilisateur heureux. Parce que c'est une organisation, j'oserais dire, qui nous borde. Il y a une sécurisation des travaux qu'on y fait. Et ça, ça n'a pas de prix. Et comme vous le disiez, nous ne serions pas en mesure, individuellement ou même au niveau d'un labo, d'assurer tout ça.
Je ne sais pas. Quand vous parlez d'interdisciplinarité et de travail avec les informaticiens, pour l'Atlas, c'est un long travail avec des informaticiens. On a conçu des outils, etc. Alors, il faut dire que, je ne sais pas, cette double digestion n'est pas toujours une jolie chose. Je me souviens que quand les sociologues commençaient à discuter, les informaticiens ils étaient ensommeillés, ils s'ennuyaient et ils trouvaient que... Et puis quand les informaticiens commençaient à discuter, montrer voilà, l'archive, voilà, tout le monde était absolument affolé de ce langage technologique. Et donc Ça se fait doucement. C'est rare qu'on trouve un ingénieur, et nous avons eu la chance, par Mathieu Jacomi, de savoir traduire. Et moi aussi, j'ai eu un passé en physique avant de faire la sociologie. Donc, c'était facile de comprendre aussi un peu la partie mathématique qui existe dans la chose. Mais ce que je voudrais dire, c'est une reproche qu'on m'a toujours fait, parce que, à l'évidence, pour Ideaspora, on a fait de la big data, on a travaillé sur les traces, etc. On a fait des graphes, de jolis graphes. On a fait le logiciel des graphes, Gephi. Mais ce qu'on m'a reproché toujours, c'est que voilà, ces données-là n'ont pas d'émotion. Et c'est ce qu'on te reproche toujours à l'humanité numérique. Ce sont des données. On les fait parfois jolies avec le design. On nous a appris beaucoup de choses par Density by Design, par exemple, ou par d'autres acteurs qui œuvrent dans cette discipline, ou par Manovitch, je ne sais pas, il y en a plein qui travaillent les bases de données d'une manière absolument artistique, si je peux dire comme ça. Pourtant, la story of migration was not there. C'est pas là. Et c'est un reproche qui ressort constamment quand on fait de méthodes digitales.
Pour le sentiment, donc, je ne sais pas, maintenant l'analyse des sentiments en fait est devenue, je ne sais pas est-ce que c'est de ça que tu parlais, mais l'analyse du sentiment, c'est vraiment quelque chose, une grande discipline, où vraiment on peut essayer de, c'est pas que la mode, oui, mais on peut regarder vraiment, essayer de détecter les sentiments, etc., que ce soit dans les images, dans la vidéo, tout ce qu'on, je ne sais pas est-ce que c'est de ça que tu parles.
Elle parlait de ce que l'on ressent quand on regarde quelque chose qui est une humanité numérique. Et, ça dépend.
Donc, on voit le numérique, mais on ne voit pas l'humanité, en gros, c'est ça.
Alors, ça dépend de l'humanité qu'on met dedans. Si je parle des LAF que l'on a ici, on fait la promotion et on renvoie un savoir aux utilisateurs africains de leur propre langue, c'est-à-dire pour s'approprier leur langue, et c'est beau, il y a de la poésie, d'abord on y met des images, mais il y a des berceuses, il y a des poésies, et il y a de l'humanité. Et donc ça dépend, je pense, strictement du domaine ou du sous-domaine que l'on traite.
Alors, c'est tout à fait passionnant, mais le temps passe, et je voudrais qu'on parle un petit peu de l'impact du numérique sur les processus de patrimonialisation. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, donc je ne sais pas lequel d'entre vous voudrait prendre la parole en premier. Peut-être Geneviève.
Si je dois évoquer ce sujet, ce sera à partir de ce qu'en font les publics. Ça a été évoqué à un moment donné par rapport à leur participation. Quand même on va jusqu'à ouvrir les données pour permettre l'intervention, voire une certaine foxonomie, quand certains publics peuvent se positionner en tant que curateur aussi. Donc ce type de revendication. Mais la plupart du temps, en fait, on a... Alors, les émotions, c'est très important. Le plaisir, avoir envie de belles images et d'intervenir dans le processus de médiation. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué à plusieurs reprises. Parce que quand les publics sont dans les musées, ils vont, par exemple, à un musée d'histoire, ils vont à la rencontre de leur histoire, l'histoire de leur ville, ou découvrir une autre histoire. Là, en fait, ils vont, en tout cas actuellement, parce que vous évoquiez finalement l'appropriation et les compétences de ces publics qui pouvaient donc intervenir, soit en répondant à des participations, je pense aux sciences politiques, aussi avec les musées de sciences, mais sans attendre aussi l'appel à participation. Et là, à ce moment-là, ils ont des outils. Hein, vous parliez d'appropriation, hein, effectivement sociale, hein, de technique, et ils ont des outils et ils vont pouvoir relayer la médiation dans le musée. Donc c'est de cette manière qu'ils vont intervenir dans ce processus de médiation pour finalement relayer le rôle de la, du musée dans la diffusion du patrimoine. Donc à ce titre-là déjà, on a ce type de, d'intervention. Et, mais en fait, c'est très ambivalent. Souvent, la plupart du temps, les personnes vont revendiquer de pouvoir intervenir, d'en avoir plus si les contenus ne sont pas suffisants, et ils vont mettre en débat, et ils vont même en fait, être assez surprenants. C'est-à-dire, ce qui est prévu, eh bien, il va y avoir du contournement. Il faut passer par une vidéo pour jouer. Bon, bah, on va zapper la, la vidéo. Et puis, s'il faut taguer des objets, puis après les retrouver sur la table multitouch, c'est trop complexe. Donc, ils vont quand même inventer des parcours et pour pouvoir aussi inventer leur rapport au contenu, contenus patrimoniaux. Je pense aussi au musée de sciences et sociétés. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on on observe des interactions de pratique. C'est-à-dire que si, par le numérique qui est proposé, donc en rejetant des prescriptions, mais en désirant, c'est pour ça que c'est ambivalent, en désirant des prescriptions des experts du patrimoine, eh bien, ils vont inventer, ils vont puiser dans d'autres pratiques, notamment des pratiques informatiques. Et donc, de dépasser en fait, la proposition numérique. Je fais la différence entre numérique et informatique. Et ils vont, pour pouvoir entrer dans des contenus patrimoniaux comme ils le souhaitent, donc contourner certaines prescriptions, épuiser dans d'autres pratiques. Donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant et qui, ça permet en fait, de pouvoir cerner le rapport au patrimoine par le numérique.
Alors, Marc Renneville, la constitution d'un patrimoine autour d'une thématique qui est quand même assez singulière, comme la vôtre, en quoi le numérique a-t-il contribué à cela ?
Sur l'histoire de la justice ?
Oui.
Mais en fait, il est à l'origine même du projet. C'est-à-dire que si on a créé, si j'ai eu l'idée de Crime au Corpus...
C'est un patrimoine qui existait quand même déjà avant.
Il existe.
Il s'est développé différemment, peut-être.
Il existait, mais il n'était pas facilement accessible. C'est justement cette idée entre patrimoine confiné et patrimoine ouvert au public. Moi, je ressentais, quand je travaillais sur l'histoire de la justice, qu'il y avait une compréhension extrêmement limitée de nos enjeux. On pouvait s'adresser aux magistrats, on pouvait s'adresser dans mon domaine, qui est aussi un peu la médecine légale, aux psychiatres. Mais dès qu'on dépassait ce stade, il fallait vraiment redescendre à des discussions extrêmement basiques sur qui a fait le coup, etc., du polar, quoi. Et il y avait aussi un usage dans les médias politisé, complètement biaisé. Je ne dis pas que les journalistes n'ont pas leur travail, mais il y a quand même un certain nombre de journalistes qui utilisent la justice et les faits divers médiatiques à des fins qui sont quand même très éloignées de ce que peut porter un discours de recherche.
Il y a des émissions tous les soirs à la télévision. Là-dessus.
Oui, absolument formidable. Et quasiment hors la loi, d'ailleurs, mais ça continue. Et il y a un public pour ça. Donc, pour contrecarrer tout ça, soit on va dans les médias, et ce n'est pas mon truc, soit on utilise le numérique un peu comme les presses à la fin du XIXe siècle par les anarchistes. C'est-à-dire que si on a l'outil, on peut diffuser. Et c'était un peu la réaction que j'ai eue à l'époque. Au début des années 2000, on n'était pas très nombreux non plus à prendre position dans ce domaine. Et je me suis dit, il faut qu'on montre la rigueur de notre savoir autrement qu'un discours d'autorité. Donc, il faut qu'on présente les preuves de notre discours qui sont les sources. Donc, l'idée, c'était de publier des corpus et de les rendre lisibles aussi à un public non averti. Donc, d'essayer de vulgariser et de faire des articles qui ne soient pas des articles savants, parce que les articles savants, on avait nos revues, mais des articles plus courts. En plus, j'avais les injonctions justement des informaticiens qui me disait sur un SPIP, tu n'as pas droit aux notes de bas de page, donc tu te débrouilles, tu ne fais pas de notes. Ce qui explique pourquoi nos premiers dossiers sur Crimino Corpus, si vous regardez, il y a une archéologie qu'on peut faire, des textes beaucoup trop courts, très peu référencés, mais c'était une contrainte technique sur laquelle je ne suis pas vraiment revenu, parce qu'on n'a on a pas arrêté d'avancer. Donc,
il y a ça, et puis il y a, avec le blog, le moyen de mettre le patrimoine en contact avec l'actualité.
Tout à fait. Donc là, il y a une grosse activité sur le blog pour montrer la patrimonisation en train de se faire. Et puis, on a quand même monté un outil sur le patrimoine, justement, judiciaire. de la France pour, en partant d'une vision un peu naïve de chercheur en se disant oh bah, on va faire un outil collaboratif sur le sujet, parce que l'idée simple et qui reste une idée un peu militante, c'est de montrer au public que la justice est partout, simplement qu'il ne la voit pas, parce que c'est soit derrière des murs de prison ou des bâtiments réhabilités, soit dans des palais de justice dans lesquels il rentre rarement. Et pourtant, si on fait un cercle de 10 km autour de nous, où qu'on soit en France, il y a de la justice. Donc c'était de faire une cartographie des lieux de justice, et comme les gens sont très attachés en général à leur territoire, de les faire participer en nous envoyant des photographies, des informations sur un ancien lieu d'exécution dans un village ou des choses comme ça. On était un peu utopique, hein. Donc on a fait ce travail. On a beaucoup rabattu sur le plan de la recherche, parce que faire une base de données sur ce sujet-là, ça supposait de mettre en commun nos savoirs. Et justement, on a eu une collègue en histoire de l'art et une autre collègue en histoire du droit qui nous ont beaucoup aidés, parce que c'est pas du tout la même vision. Donc on a rassemblé les deux visions. On a beaucoup utilisé la base Mérimée, justement, pour le statut patrimonial de certains lieux. Et puis on a attendu les contributions spontanées, comme ça, du public. Alors on les a attendues longtemps, puis quand elles sont arrivées, ça nous a donné 10 fois plus de boulot. Parce qu'évidemment, on ne se rend pas compte, parce que, et là, je suis extrêmement frustré par rapport aux sciences dures. Moi, je connais des collègues en sciences dures, ils proposent des sciences collaboratives, et vous cliquez sur le corail qui est rouge, vous cliquez sur le truc qui est carré, etc. Ben, nous, je suis désolé, mais on n'arrive pas à cette simplification sur la question du patrimoine. Donc, on avait un questionnaire qui nous semblait relativement simple, on s'est aperçu qu'il était d'un niveau beaucoup trop élevé, et finalement, ça reste collaboratif, mais je dirais plus pas participatif. C'est collaboratif entre experts, c'est-à-dire entre archivistes, documentalistes, historiens. Et c'est participatif quand on a du public qui s'adresse à nous. On lui dit tout de suite, prenez contact avec nous, on retrouve l'humain, passez pas par la machine, on discute, vous nous envoyez les photos et après on remet ça en forme.
Oui, vous ne disposez pas sur ce sujet d'un réseau associatif comme il peut en exister dans les sciences de la nature, d'associations qui étudient les oiseaux, les papillons, etc. Et non, mais le muséum travaille beaucoup avec ces associations pour constituer des corpus et analyser des phénomènes sur l'ensemble du territoire national.
Nous, le biais qu'on a trouvé pour l'instant, c'est de travailler avec le CTHS pour faire des présentations et renvoyer aux associations locales d'histoire. Mais ça reste un travail de très longue haleine, et cette base de données qui est sur le patrimoine judiciaire, qui s'appelle Hugo, est un travail au long cours, en fait.
Alors, sur le territoire que vous avez le plus étudié, celui de la Seine-Saint-Denis, qu'en est-il
sur ces questions de la...
De patrimonialisation et d'accès au patrimoine?
Disons qu'en termes de... On avait fait un gros travail dans les années... sur un programme FEDER, quoi, qui s'appelait... Territoire Seine-Saint-Denis, vivre, connaître et s'implanter en Seine-Saint-Denis, quoi, qui était sur un fonds d'investissement, enfin des investissements européens, sur justement les questions d'hybridation entre le numérique et la constitution, le façonnage des identités territoriales, quoi. Donc on avait un petit slogan au Léden à l'époque, on disait sous les HLM, les voies gallo-romaines. Alors là, je rejoins complètement cette question essentielle de l'institution, quoi. Alors, c'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, il y a un bureau du patrimoine qui fait un travail exceptionnel déjà de récolte, de recherche sur le patrimoine historique ou vivant de la Seine-Saint-Denis, là, qui analyse la manière dont se transforme ce patrimoine. Donc on avait tout, en fait, hein. Donc il suffisait d'aller rencontrer les personnes ressources au sein du bureau du patrimoine, et bon, tout ça était assez facilement accessible. Donc voilà, avec Antoine Furiot notamment, ouais, qui travaille vraiment super bien. Après, voilà, donc sur la question de ce patrimoine aussi, souvent, en tout cas avec l'équipe de la chaire UNESCO-ITEN en ce moment, on est tout début sur des projets d'action urbaine innovante, hein, les projets européens aussi, Hélène est très investie sur ce projet-là avec la ville de Dunkerque. Mais il y a des patrimoines qui ne se laissent pas apprivoiser aussi comme ça. Genre, ça ne va pas de soi de numériser un patrimoine, quoi. En tout cas, là, sur les questions de, par exemple, du carnaval, nous, on ne sait pas du tout si les 200 000 personnes qui participent au patrimoine de Dunkerque vont accepter les outils numériques, quoi. Genre, c'est des institutions auto-organisées, auto-gestionnaires depuis très longtemps.
Et justement, ça va être aussi l'occasion d'explorer cette autogestion spontanée qui existe autour de patrimoine bien commun depuis des siècles et qui est vraiment sédimentée et qui est vivante en même temps. Donc, comment est-ce qu'on peut, en parlant du lien social, comment voir que ce patrimoine peut être source d'un nouveau vivre ensemble et essayer de voir si il y a là des bonnes pratiques à réinvestir en fait sur d'autres initiatives en Europe pour redynamiser ce lien social et retrouver un plaisir. On parlait du mot plaisir, de partage d'un patrimoine.
Et sur un patrimoine aussi particulier que celui des migrations, est-ce que le numérique est une clé, un outil intéressant ?
Bon, il y a toute une discussion autour des objets des migrations. Et comme anecdote, je dois vous dire que je participais à la mise en place du musée de l'immigration qui s'appelait même pas musée de l'immigration, mais cité. Et ce n'est pas par hasard que ça s'appelait cité, parce qu'il ne pouvait pas s'appeler musée, parce qu'il n'y avait pas une collection. Donc, puisqu'il n'y a pas une collection, il n'y a pas de musée, et il y avait toute une discussion autour de, voilà, est-ce que c'est musée ou pas, et finalement, non.
Puis aujourd'hui, on n'aime pas le terme musée, ça fait poussiéreux, ce sont des vieilles choses mortes.
Ah non, ce n'était pas ça, c'était vraiment ça quand même, une discussion dans le jusqu'au actuel. Dernier moment, et finalement, Raffarin, à l'époque, et il a dit cité de l'immigration et pas du tout musée, parce que la dame qui était directrice de Louvre et qui faisait partie de l'équipe a insisté jusqu'au bout que ce n'est pas un musée, parce qu'il n'y a pas de collection. Mais, et donc, avec l'INA, déjà à l'époque, on s'interrogeait si on ne peut pas faire des collections qui proviennent, en fait, parce que l'INA avait déjà une collection des films sur la vie des migrants. Et si, à partir de cette collection-là, on ne peut pas imaginer... voilà, un autre type de patrimoine, autrement, etc., qui passe par l'INA, mais aussi par le web. Et Diaspora Atlas est né vraiment au début dans le fait, et j'étais inquiète, parce que le site des sans-papiers de Saint-Bernard, le premier site des migrants, qui était le site fameux Pajol, était menacé à la disparition parce que vous savez que tous ces sites-là sont entretenus par des bénévoles, par des gens qui l'entretenaient d'une manière gratuite, comme ça, et à un moment donné, ils ne pouvaient plus. Et il faut transférer au moins d'un support à un autre, vous savez, pour conserver un site. Donc, tout a commencé un peu comme ça. On a commencé à fouiller le web à cette occasion-là avec les gens de l'INA. Et on a compris que, de fait, il n'y a pas seulement ce site-là. Contretemps, le web, ça vient comme un gant pour les diasporas et qu'il y a une production importante dans le web. Et comme ça, on a commencé à archiver, faire une collection et après fouiller toutes ces données-là qu'on a trouvées. Mais une des choses que immédiatement ça nous est adressé, parce qu'on a une méthode de collecter les sites, les valider, les visualiser, mais aussi les archiver avec les instruments de l'INA. Tout mérite d'être archivé. Absolument, tous les sites qu'on a. On a 9000 sites. Et donc, on est parti de 9000 sites, on est arrivé à 70 terras. Vous voyez ? Donc, c'est un dilemme, ça. C'est une controverse. C'est un vrai problème qui s'adresse à nous parce qu'on fait des archives du web. Il faut comprendre aussi comment sont ces archives-là. Il faut comprendre aussi comment les aborder. Et il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on garde ou encore pas. Pour nous, maintenant, et la dernière thèse, c'était très intéressant. Mais comme on a archivé tous ces 9 sites toutes les semaines, on peut voir dans le temps qu'est-ce que devient une web diaspora. Une diaspora dans le web. C'est intéressant de voir si je sais pas, la révolution tunisienne a impacté... C'est passé où l'arrivée de Twitter. On a vu que beaucoup de blogs sont morts à ce moment-là. Et donc, toutes ces questions-là sont spécifiques à une forme de patrimoine d'aujourd'hui qui n'existait pas, n'est-ce pas, professeur, avant. Et une des questions, c'est qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas et qui peut décider ça? Qui peut décider aujourd'hui que c'est intéressant pour demain ou que ça fait partie de l'humanité?
Bon, on peut s'inspirer des règles d'archivistique bien élaborées depuis des années qui peuvent peut-être aider. C'est la raison pour laquelle une institution comme les Archives nationales ou comme la Bibliothèque nationale de France travaille beaucoup sur cette question de voilà, selon quel concept et méthodologie on trie. Finalement, c'est une question de tri, cette énorme masse de données qui sont potentiellement intéressantes et patrimonialisables.
Et à notre grande surprise, par exemple, on a commencé un archivage d'un site, il a dit, et on l'a trouvé via des mystères informatiques 10 années avant. Vous voyez, on a pu aller et faire de l'archéologie au-delà de ce moment-là d'archivage. Et des choses qui sont vraiment étonnantes. Et à explorer. Je pense que c'est un domaine encore à bâtir. Il y a bien entendu beaucoup de grandes institutions qui travaillent sur ça. Hein. Aujourd'hui, mais surtout les bibliothèques, en effet, mais aussi aux États-Unis, la Fondation des Arches.
Virginie Pringuet, vous voulez intervenir ?
Peut-être prolonger un peu la réflexion. C'est vrai que pour cette rencontre entre patrimoine et numérique, elle peut se passer. Alors moi, je parle, par exemple, si on parle du contemporain, par exemple, de l'art contemporain. Moi, j'ai travaillé sur un projet donc, qui s'appelle Atlas Museum, qui est un projet d'inventaire cartographique des œuvres d'art dans l'espace public, donc des œuvres qui sont sans musée. Finalement, c'est l'idée justement de réfléchir au périmètre géographique du musée, des relations des œuvres avec leur géographie, leur géographie interne à l'œuvre, ou tout ce qu'elle véhicule comme lieu à l'intérieur même de l'œuvre et le lieu où elle se situe. Et donc, comme vous, c'est un projet de thèse, hein, donc c'est un projet de recherche qui a commencé en 2011. Et l'idée, c'était d'essayer déjà de voir comment travailler avec des institutions, donc le ministère de la Culture, aller travailler comme ça, comme chercheur pour une institution, pour traiter des données qui sont là à l'intérieur du ministère, mais qui sont pas, qui étaient à l'époque pas vraiment numérisées, qui présentaient pas d'intérêt. Puis déjà, et aussi faire rencontrer deux secteurs de ministère qui sont la commande publique d'un côté et le 1% artistique. Donc c'est deux protocoles, dispositifs de commande d'œuvres aux artistes. Déjà, l'idée de rassembler les deux corpus était un peu, un peu suspect. Et parce que ces deux dispositifs, parce qu'administrativement, c'est deux choses séparées. Voilà, c'est pas.
Peut-être pas suspect, mais en tout cas inattendu.
Hein. Oui, voilà. Et puis surtout de confier un travail d'inventaire à l'extérieur de l'institution, à un chercheur. Ça aussi, c'est pas. Mais c'était en 2011, hein, donc déjà. Et surtout, comme l'idée c'était d'utiliser justement à faire un site wiki, en persuadé qu'il y aurait des milliers de contributions. donc ouvrir justement un inventaire donc continu, ouvert souvent et à tout le public. Donc, c'était sur justement le caractère scientifique de la donnée en fait. Donc ça. Ça me semblait intéressant. Et puis après aussi, justement, la pérennité de ce genre de projet quand on est chercheur, justement. Alors, Humanum, moi, je pense que j'ai fait ma thèse au moment où justement, Humanum était en train de se structurer. Donc, le projet, donc là, il a été mis en ligne en 2014. Il est toujours en vie. Donc, c'est vrai que c'était très compliqué. Les relations avec les informaticiens qui étaient aussi dans des projets de recherche, se mettre d'accord sur les bonnes licences, même si au début, tout le monde veut faire évidemment de l'open source. Il faut quand même faire très attention. Enfin, ça peut se refermer à certains endroits et bloquer complètement l'architecture d'un projet. Donc voilà, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que dans le cas d'Atlas Museum, il s'agissait de parler d'art contemporain pour amener les gens au numérique. Alors les gens, c'est un public assez large. Ça peut être des scolaires. On a fait un projet avec Canopé, le ministère de l'Éducation nationale, pour faire travailler justement des collégiens sur des œuvres d'art dans l'espace public. Alors en général, ça ne les intéresse pas du tout. Enfin, ils ne s'intéressent ni à l'art contemporain, Mais finalement, l'angle numérique, et Wiki en particulier, cette initiation numérique via l'art contemporain fonctionne plutôt bien. Et inversement, l'initiation à l'art contemporain via le numérique. Donc, c'était un peu cette boucle qui faisait que l'idée, c'était de réfléchir à ce patrimoine, petit patrimoine ou grand patrimoine, par un acte de documentaire. Et que tout le monde peut documenter une œuvre d'art, même si on n'y connaît rien. On peut décrire une œuvre. Et puis voilà, c'était donc de ne pas créer un outil spécifique, utiliser un outil qui est donc le même outil que Wikipédia, mais customisé et designé pour que.
Alors, Geneviève Vidal, dans les musées, on permet aussi par certains dispositifs aux visiteurs de documenter les œuvres qu'il a sous les yeux, enfin, d'intervenir.
Alors, dans les musées, non, c'est plutôt à distance. Quand les musées, justement, je pensais d'ailleurs aux sciences participatives, donc notamment le Muséum d'histoire naturelle, où effectivement le musée doit. C'est un casse-tête, quoi, pour après voir un peu ce qui est dit, enfin, les contributions, quoi. Donc c'est énormément de travail, en fait.
Vous pensez aux contributifs. Je ne pensais pas à des musées beaux-arts, je pensais plus à des musées de société, mais je ne sais pas si votre travail.
Là, c'est musée de sciences. Mais en art, si, il y avait aussi, par exemple, de mettre à disposition des outils similaires à ceux des chercheurs sur des œuvres comme Cranach qui avait été mis en ligne. Et donc là, un appel à contribution, peut-être pas, mais en tout cas participation, à taguer, à renseigner. Donc bon, dans un cadre bien défini par le musée. Et donc là, il y a une mise à disposition d'outils effectivement similaires à ceux donc de chercheurs par rapport donc à l'analyse d'œuvres. Mais sinon, non, sciences et sociétés, par exemple, à l'intérieur de musées ou d'expositions, il y a effectivement la possibilité de taguer des objets. Alors ça permet aussi de réfléchir à des nouvelles médiations qui peuvent être développées comme les objets connectés. Donc là, il y a eu des expérimentations assez intéressantes avec la RFID, etc. Donc de taguer des objets, c'est une forme d'appropriation d'ailleurs, d'intervention sur les objets pour les voir autrement et les voir à travers donc la tablette qui est reliée, enfin, et de penser les réseaux. Donc, ce qu'on appelle des environnements pervasifs. Et ça, c'est vrai que, du coup, le musée, c'est un peu ce que disait Virginie, c'est-à-dire, si on ne s'intéresse pas directement aux objets, par le jeu avec le numérique, eh bien, il y a une appropriation des technologies qui conduit, d'une certaine manière, à être dans une relation au patrimoine. Alors, ce n'est pas pour détourner l'attention, ou c'est vraiment de la médiation. En tout cas, c'est comme ça que je travaille. C'est pratique là qu'on peut observer. Et donc, par exemple, relier une table multi-touch, un parcours pour taguer des objets, une tablette ou un smartphone en réalité augmentée. Voilà, ça c'est le type de médiation qui est de plus en plus courante, hein, dans les musées. Il s'agit moins d'apporter donc des contributions en termes de contenu que de participer et d'impliquer en fait le public dans une relation au patrimoine, donc sciences et sociétés ou sciences ou histoire, par le biais de jeux. Alors ça, c'est de plus en plus courant, hein, la médiation ludique, le fait de toucher aussi, donc, mais par les objets numériques. Alors, le jeu peut, d'une certaine manière, mais avec parcimonie, permettre d'apporter des éléments de façon très limitée par le public. Ça, c'est à l'intérieur des musées. Il y a davantage de contributions en termes de contenu à distance, par Internet. Alors, soit directement sur des sites institutionnels, soit en utilisant et donc en prenant en charge pour le musée l'environnement de sites complètement exogènes, hein, donc les réseaux sociaux numériques. Donc là, il faut composer avec les contraintes de ces opérateurs, quoi, hein, de ces plateformes. Et là, il peut y avoir des contributions beaucoup plus conséquentes en termes de contenu. Mais si on revient donc au participatif, c'est un énorme travail après de faire le tri, quoi, de voir ce qui est possible d'être publié. Et la plupart du temps, donc, je parlais d'ambivalence du côté des usagers, mais du côté des professionnels aussi, des musées et du patrimoine, c'est de créer de la proximité, mais aussi de limiter ou de distinguer ce qui relève de l'expert et ce qui relève aussi donc, du public et ce qu'il peut apporter en termes de contenu.
Alors, merci. On voit bien qu'en créant ces différents dispositifs, on envisage un public cible. Enfin, ce n'est pas une très belle expression, mais en tout cas des contributeurs potentiels. Ça ne marche pas toujours, Marc Renville nous le disait tout à l'heure. Moi, j'avais envie de vous demander à Patrice et à Amou, est-ce que ça marche, le Wiktionnaire, en termes de partage des savoirs, de croisement des connaissances entre les deux rives de la Méditerranée? Ça me fait rêver, donc je voulais en savoir plus.
Je mettrai les deux projets auxquels je participe dans la même corbeille, c'est-à-dire aussi bien les littératures écrites en langues africaines que le Wiktionnaire, parce que d'une certaine manière, dans les deux cas, on travaille avec un patrimoine très immatériel, surtout au niveau du Wiktionnaire, puisqu'on travaille au niveau des concepts, des sciences sociales et humaines, mais ça constitue quand même des collections. Pour moi, il y a des collections de mots, il y a des collections de concepts. Alors, je dirais que le mixage culturel, il existe à l'heure actuelle au niveau des deux projets par l'ensemble des contributeurs qui fabriquent ces deux appareils. Et effectivement, on tisse des liens à la fois amicaux et culturels. Et je dirais que le Wiktionnaire participe aux questions de patrimonialisation de manière un peu particulière et importante au niveau du berbère, parce que nous traitons essentiellement le français, l'arabe de manière importante. Le berbère est un peu en retrait, même si Amou est notre berbère
de référence,
tout à fait. La différence est que au niveau de l'arabe, on a une tradition millénaire, en particulier au niveau des grammairiens arabes. Au niveau du berbère, on est encore dans une langue dont l'aspect oral est important. Disons qu'on est passé à la scripturalité essentiellement chez les Chleux, c'est-à-dire dans le sud-ouest du Maroc, et chez les Kabyles en Algérie. Et on a un besoin de créer les nomenclatures. Donc il y a un travail de néologie auquel nous participons qui est absolument considérable. Parce que notre correspondante Tizi Ouzou, que j'avais citée, Mohand Akli Salahi, réfléchit sur la base de ce que l'on propose en français, qui a été traduit à Khartoum en arabe, donc dans un arabe standard, à ce qu'il peut proposer comme nomenclature en se référant déjà aux ouvrages de nomenclature qui existent depuis une vingtaine d'années. Alors on a la néologie de Hacham qui a été faite en Kabylie, on a des ouvrages de terminologie, par exemple linguistique, à l'IRCAM, à Rabat. Donc il existe des choses, mais on doit aussi proposer quelque chose qui est plus ou moins normalisé et qui est, je dirais, justifié. C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur la connaissance des racines. Alors, on est aidé parce qu'il existe un dictionnaire des racines pan-berbères. La dérivation, il faut créer des choses qui soient acceptables par le public. Alors, pour le moment, comme ce sont des caractéristiques encyclopédiques au niveau du dictionnaire, on envisage une ouverture, donc un choc public, disons, dans quelques mois pour l'année prochaine. Parce que j'ai souhaité donner un certain ensemble en nourriture, en peinture, aux gens qui vont le regarder, les premiers qui vont le regarder. Il est désespérant de regarder un site dans lequel on n'a pas assez d'informations. Donc, j'ai volontairement retenu les impatiences de beaucoup de gens pour que l'on ait quand même quelque chose qui puisse, après, éventuellement, susciter des vocations de collaboration.
À Moufadili.
Moi, je vais prolonger un peu, mais sur le côté technologique. En tout cas, ce projet, pour nous, ne peut pas être fait donc sans le numérique. Parce qu'on parlait justement du patrimoine numérique, patrimoine, etc. Parce qu'on est dans un contexte franco-maghrébin, géographiquement distribué, on va dire. Donc, faire travailler les gens ensemble, voilà, donc on ne peut pas y arriver tout le temps, etc. Ils ne sont pas en France. Donc, il nous fallait une plateforme collaborative sur laquelle les gens peuvent travailler, etc. Facile, parce que justement, quelqu'un s'était apparu de la plateforme Wiki, etc. Et donc, nous, on avait un double problème. Donc, chercher une plateforme collaborative, facile à utiliser, mais qui a quand même des capacités de modélisation. Et donc, on s'est orienté justement vers la version MediaWiki sémantique de MediaWiki, parce que c'est une plateforme assez puissante, compatible avec le web sémantique, et en termes de modélisation, elle est assez puissante. Donc, on peut, par exemple, simuler, d'ailleurs, ce qu'on a fait, nous, sur la plateforme, on peut simuler une base de données sans vraiment se trimballer la lourdeur des bases de données, etc. Donc, on peut faire des schémas, et donc, notre contribution un peu sur ce projet, je pense qu'on peut en parler ici, c'est vraiment de prendre cette plateforme MediaWiki sémantique et de l'adapter pour programmer un peu le besoin du dictionnaire. Donc, vraiment, on a intégré un peu tous les besoins, donc multidisciplinaires, multilingues, etc. Et on a fait ça, pour ceux qui connaissent un peu la plateforme, sur une seule instance. C'est une seule installation, parce que les installations par défaut, en fait, demandent une installation, une instance par an, avec des liens internes. Et nous, donc, on a fait tout ça sur une seule instance. L'idée, c'est pour pouvoir naviguer au sein d'une... Donc, l'idée, c'est de construire un ensemble cohérent. On peut passer d'une langue à une autre sans problème, de manière tout à fait naturelle. Et puis, de naviguer aussi entre les disciplines, parce qu'un concept peut évoluer dans son contexte, hein, donc régional, historique, etc. Donc l'idée, c'est de vraiment suivre un peu l'évolution des concepts entre les langues, entre les disciplines, entre les cultures, parce qu'on s'intéresse aussi au parler, parce qu'on parle des berbères, même au niveau de l'arabe, et on suggère même le français peut-être distinguer un peu les aspects culturels entre le canadien, etc. Donc il y a des discussions. Donc en fait, ce travail-là qu'on a fait sur la technologie, ça marche bien, donc vraiment c'est une plateforme d'ailleurs qui a fait ses preuves avec les Wikipédia et tous les wikis qui se portent, et pour nous aussi, donc ça marche très bien. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur cette partie. Oui.
Moi j'ai une question pour
avec
tout le monde.
Avec le micro d'Anna pour l'enregistrement.
J'ai une question pour tout le monde, aussi pour vous Marc. J'ai cru comprendre que Humanum est une espèce de d'expériment de frugalité technologique heureuse. Ça veut dire que les méthodes employées sont... on n'a plus besoin d'ingénieurs maintenant parce qu'on déploie, on fait des logiciels et que... Je ne sais pas si ça fonctionne vraiment. J'ai vu dans beaucoup de projets à quel point le chercheur en sciences sociales doit travailler avec l'ingénieur en informatique et faire cette méthode agile de va-et-vient. Ça ne marche pas, je pense. Et deuxième chose, je pense là à Stigler qui dit que la technologie est un pharmacon, donc à la fois, non, c'est une aventure heureuse de nouveau, mais ça peut être aussi un poison. Et donc, est-ce que dans vos expériences ou dans vos domaines, vous avez rencontré des dérives? perspectives d'usage des nouvelles technologies concernant le patrimoine et qui, en fait, on fait du mal au patrimoine. On fait du mal à l'humanité qui est en rapport avec ce patrimoine.
Alors, sans que ce soit aussi dramatique, moi, je pense tout de suite à des dispositifs numériques, et là, peut-être que Geneviève pourra dire des choses, mis en place dans certains musées, qui créent une sorte d'écran d'opacité entre le visiteur et les œuvres. Exactement. Je ne sais pas si Geneviève... Si,
fait penser à une tendance qui est étrangement demandée, plébiscitée, et donc la réalité virtuelle et l'immersif. Et alors, bon, ça n'a rien à voir directement donc avec Humanum, hein, mais comme je suis interpellée par rapport donc à ce qui se passe dans les musées avec ces développements, ce type de développement, c'est vrai que là, on est dans une opacité, c'est-à-dire que on est dans du registre de un registre qui ne permet aucun vide, et donc un vide pour pouvoir permettre d'échanger, d'instaurer de la relation, d'instaurer une appropriation. Hein, donc voilà. j'ai un peu dérivé pour répondre à la question. Mais
non, c'est en fait, il y avait deux questions dans la prise de parole d'Anna, mais je passerai la parole après à Marc pour qu'il réponde à la première sur Humanum.
Mais bon, voilà, il ne s'agit pas de dire au danger avec l'immersif et puis les tendances à la réalité virtuelle, etc. Mais je pense qu'il faut tenir compte quand même de ce qu'on engage. Quand on est un musée, une institution patrimoniale, hein, et de faire ce type de proposition qui, effectivement, semble répondre à une envie et un engouement. Mais je pense qu'il faut avoir un usage réflexif professionnel avant de s'y engager quoi, trop rapidement.
Et alors, avant de passer la parole à Marc, il y a peut-être des réactions à ma droite, oui.
Pour réagir à la question de Dana, il y a, en termes de menaces, dès lors qu'on parle de la numérisation du patrimoine, hein, qu'il soit matériel ou immatériel, il y a la question de la délocalisation de cette numérisation. On a pu voir et on voit encore aujourd'hui de quelle manière certaines entreprises extraterritoriales numérisent de manière assez frénétique les collections dans les musées ou les collections des bibliothèques gratuitement, hein, pour en tout cas avoir une capacité, une matière première, un contenu sur lequel ils sont susceptibles de travailler, d'extraire des données, de fournir des produits dérivés, des services à partir de cette intelligence collective qui a été créée culturellement, patrimonialement, au fil des siècles, quoi. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un enjeu très important, à la fois au niveau stato-national, mais aussi au niveau européen, de mise en place d'infrastructures, enfin, dont la TGR faisait partie, justement.
Hein, qui sont une alternative.
Qui sont une alternative. Alors, c'est alternative, c'est difficile, parce que c'est vrai qu'en termes de poids, en termes d'investissement financier, etc., ce sont des entreprises qui étaient autrefois, enfin encore toujours, extrêmement soutenues par la puissance publique, via la DARPA, par exemple, aux États-Unis, et qui ont aujourd'hui atteint une telle domination, quoi, au niveau international, que ça devient extrêmement difficile. Donc c'est vrai que c'est intéressant de questionner ces infrastructures-là, comme Europeana aussi, hein, qui fait un travail aujourd'hui aussi très important au niveau international. C'est vraiment de la colonisation, hein, numérique des territoires et de facto de nos patrimoines, quoi, des patrimoines.
Marc.
Oui, alors, très bonne question, merci. Pour les deux questions, en fait. Sur la première, sur Humanum, en fait, il y a quand même... Humanum n'est pas une réponse à la carte. C'est-à-dire que Humanum n'aurait jamais pu faire ce que vous avez fait... avec votre solution pour les migrations. Mais Humanum cherche à répondre aux besoins basiques sur lesquels souvent on perd beaucoup de temps. Des choses aussi simples que l'hébergement de machines virtuelles sécurisées, la sauvegarde des données, les espaces l'archivage en termes, l'espace collaboratif de stockage intermédiaire comme ShareDoc. C'est des choses qui peuvent prendre du temps ou même des listes de diffusion. Ça peut paraître basique quand on nous. facilement, mais quand un chercheur démarre, c'est vraiment ce qui va lui faire gagner beaucoup de temps au départ. Et après, il va avoir le temps justement de se dire, mais est-ce que, en termes de solution de visualisation, Humanum a la solution. Et là, ça commence à devenir plus compliqué parce qu'effectivement, en dehors d'un WordPress, en dehors d'un Omeka ou d'un Acalona, etc., on va pas pouvoir répondre. Et on va expliquer au chercheur que s'il fait vraiment, il n'a pas la solution, ben il va falloir qu'il la finance. Donc voilà pour Humanum, quoi. Ça ne répond pas à tout.
Aussi, peut-être que c'est un réseau que vous connaissez dans la structure du CNRS et au-delà, parce que vous appartenez aussi à une structure européenne. Peut-être dont vous voyez les chercheurs qui cherchent quelque chose de plus adapté à l'endroit bien où sûr. Ça vous fait.
Oh oui, il y a les consortiums, mais les consortiums disciplinaires servent aussi à mutualiser. En fait, ça facilite vraiment la mutualisation des réflexions, des expériences et des outils. Après, savoir si le numérique est un péril pour le patrimoine, je trouve que c'est une excellente question parce que, alors, le premier côté positif de la pièce de monnaie, le numérique peut évidemment aider à sauvegarder du patrimoine quand on sait qu'il va être détruit.
Bah, je pense qu'à ce qu'on fait, nous, ponctuellement, avec l'administration pénitentiaire, quand une prison ferme, des prisons anciennes, notamment la première qu'on a filmée, c'était la maison de l'arrêt du Havre, on savait qu'elle allait être détruite. On a filmé dedans, les agents pénitentiaires nous expliquaient comment elle fonctionnait. Maintenant, le film, il existe. On a fait une visite d'appel sur Internet. À la place de la prison, il y a une police. Donc là, le numérique a servi à quelque chose. Mais après, ce patrimoine, finalement, qu'on a contribué à numériser, est devenu un patrimoine numérique lui-même, mais il peut être en péril. Et je connais des travaux de base de données qui ont été faits
il y a plus d'une dizaine d'années, notamment des collègues qui ont été des pionniers. Et j'ai l'habitude de dire que quand on démarre tôt dans le numérique, en fait, on prend beaucoup de retard sur les technologies qui vont être inventées ensuite, parce qu'il y a un coût à la maintenance qui est bien plus important que de lancer un nouveau projet en faisant toute la publicité qui va autour en disant « voyez, c'est nouveau ». Mais les projets les plus anciens ont beaucoup de difficultés à se maintenir et parfois s'opposent à des barrières technologiques qui sont très importantes. Et j'ai des exemples qu'on gère justement avec la TGIR et qu'on voit qu'on est vraiment aux limites, avec notamment toutes les bases de données qui avaient été faites par Pietro Corsi du temps du CRHT, avec les bases de la marque, sur les élèves de la marque, l'herbier de la marque, le site sur Buffon, les sites sur les cartes géologiques, sont en train de tomber les uns après les autres dans un domaine restreint, parce qu'il y a des failles de sécurité très importantes, et que la redocumentation de ces sites coûterait presque plus cher qu'un nouveau projet. Et il n'y a aucun prestataire ou aucune institution de nos jours qui va nous dire « Ok, on est prêt à refaire remettre à flot des sites qui font partie du patrimoine numérique. » Et ça, c'est un vrai danger. Ouais.
C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de l'archivage, du stockage, etc., des données, mais c'est vrai que le nouveau volet sur les interfaces de médiation d'accès à ce patrimoine numérisé et devient vraiment urgent. C'est-à-dire qu'il faut inventer toujours des nouvelles interfaces, soit pour une médiation didactique auprès de jeunes publics ou de publics dans les musées, ou sous la forme de ludicité. Mais en tout cas, il y a, ou alors pour rendre compte de data, pour pouvoir les rendre plus sensibles, pour les rendre plus parlantes. En tout cas, ces nouvelles interfaces, on ne va pas pouvoir faire l'économie d'un travail un peu sur mesure aussi, avec des directeurs artistiques, des gens dont c'est le métier aussi de designer de la data, de transmettre aussi en images.
On va peut-être passer, si ça ne vous ennuie pas, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, Virginie. Parce qu'il nous reste 10 minutes. Bon, rapidement.
Ayant entendu ce que vous avez dit, en particulier depuis le début, sur les rapports entre les différentes sciences sociales et humaines et ce que vous avez appelé les ingénieurs, il y a quand même une question qui se pose, qui est la formation des porteurs de ces sciences, de ces SHS, à l'informatique. Là, il y a un vrai projet à tenir, parce que cette formation, elle est nécessaire, ne serait-ce que pour avoir ce même dialogue, mais à un niveau beaucoup plus élevé et beaucoup plus spécialisé.
Oui, il y a la question de la formation, mais il y a aussi une question de génération. Je pense que les jeunes chercheurs qui sont nativement numériques ont moins de difficultés à maîtriser ces
forcément vrai. Même si les gamins jouent avec leur téléphone, là, ce n'est pas forcément vrai. Bon. Et...
Non, non, mais je ne disais pas qu'il ne fallait pas de formation.
Et j'ai fait pendant 25 ans une formation pour des porteurs de langue au traitement automatique des langues. Donc, on leur a donné cette formation informatique et les résultats sont bons. Bien sûr.
Alors, est-ce qu'il y a des réactions dans le public ou des, des interventions rapidement avant qu'on passe au dernier point ?
C'est juste pour... il était question de ce que nous faisons, enfin, ce qui est fait, avec le rapport par rapport, enfin, comme les langues comme le berbère ou le peul ou les langues... Il y avait une époque où, simplement pour écrire une simple page dactylographiée, c'était quelque chose d'absolument impossible, étant donné toutes les notations qui sont exigées pour le berbère. Voilà une époque où les langues... Bon, il y a de l'écriture. L'écriture remonte pour le berbère peut-être au XIIIe siècle. Pour le peul, on a des textes... voilà. Bon, je ne vais pas être très long. Je vais dire que c'est des outils absolument puissants pour des besoins immenses aujourd'hui et d'une grande efficacité. Voilà. Donc, pour résumer, c'est tout ce que je voulais dire.
C'est bien dit. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais repasser la parole à Marc Renville sur une dernière interrogation qui me semble de nature à clore intelligemment notre débat. Le numérique technique ou langage ?
Oui. Bon, alors, du coup, puisque j'ai posé la question, il faut que je m'explique un peu voilà. Là-dessus.
Une première réponse que nous allons critiquer ensuite.
Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que le numérique, on peut l'utiliser de deux manières. Enfin, en tout cas, moi, j'envisageais du point de vue du récit de l'historien. Donc, est-ce que c'est une manière de mettre, par exemple, en ligne des travaux que j'ai déjà rédigés et qui ont été publiés sous forme papier, c'est-à-dire des photocopies en ligne? Ou est-ce que c'est un langage? C'est-à-dire, est-ce qu'il va me contraindre ou m'offrir la possibilité d'écrire autrement l'histoire et la restitution de mes recherches. Et évidemment, les deux sont possibles et les deux cohabitent encore de nos jours. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a des revues qui passent au numérique simplement en mettant en ligne des contenus. Et puis, on a des revues nativement numériques, si j'ose dire, qui essaient d'explorer la possibilité d'écrire autrement les textes et de les restituer autrement. C'est en ce sens-là que je voulais dire est-ce que c'est une technique ou est-ce que c'est un langage? Et puis... Et si ça n'est pas qu'une technique, c'est aussi un langage, alors on rejoint les questions qu'on a posées de la visualisation des données et de la médiation de ce langage. C'est-à-dire que quand on fait un site et qu'on est un chercheur, on part de ce que mon collègue appelle l'intuition concepteur. C'est-à-dire comme on a le savoir, on a l'impression qu'on sait comment il va falloir faire. Et là, c'est là que commencent les erreurs et les méprises. C'est-à-dire que la réception du message qu'on émet en tant que concepteur est très éloigné, assez souvent, de ce que l'on pensait faire. Et nous, on a pu le vérifier sur Crimino Corpus, en émettant des choses qui ne nous intéressaient pas et qui ont rencontré un public, par exemple des chronologies. Je vous avoue que les premières chronologies qu'on faisait en SPIP, ça demandait beaucoup de temps, puis on se disait, mais où est-ce qu'on va en faisant des chronologies de 300 dates avec les textes juridiques liés sur la question de la déportation, de la relégation et de la transportation. Et on a eu des retours très nombreux et positifs. On s'est dit, ah bon, bah alors finalement, ça intéresse. Et puis il y avait d'autres choses qu'on pensait intéressantes et qui n'ont pas rencontré le public. Donc l'intuition concepteur, elle est à relativiser. Et surtout, maintenant qu'on a travaillé avec une collègue qui a fait une thèse en ergonomie cognitive, on a compris aussi que les mots, on a parlé du langage et on y revient toujours en sciences humaines, les mots qu'on utilise, les catégories, les classifications, ne sont absolument pas neutres et ont des effets sur nos publics, puisqu'on vise toujours un public. En tout cas, nous, sur Crimino Corpus, au-delà de la communauté scientifique, on a des retours dans les études qui ont été faites et qui ne sont pas simplement les compteurs Google qui nous disent qu'il y a des gamins de 25 à 34 ans qui s'intéressent au football. Ce n'est pas ça qu'on vise. Donc, il faut des analyses vraiment avec des entretiens directifs ou semi-directifs. Et là, on s'aperçoit que ce langage n'est pas constitué et le chercheur lui-même ne peut pas le constituer tout seul. Et ça rejoint vraiment ce que vous disiez tout à l'heure.
Une réaction là, enfin, moi je parle d'usage prescrit, usage effectif. Et donc, l'analyse d'usage, alors bon, c'est très large là, mais par exemple, l'usage de votre site web, effectivement, ce serait effectivement le fait de saisir, alors pas en termes de satisfaction ou de goût, ça, il y a des algorithmes qui vont tracer tout ça, mais c'est effectivement dans une approche qualitative pour en fait cerner les significations d'usage, c'est-à-dire pourquoi ils font ça, quel sens ça a pour eux, et heureusement, on ne peut pas accéder au cerveau des personnes qui le font, mais par leurs usages, de pouvoir envisager de la prescription pour orienter de façon à laisser la place, c'est pour ça que je parlais de façon critique de l'immersif, pour laisser la place, même si on n'est pas du tout dans ce cadre-là, aux significations d'usage et de pouvoir après, en fonction de la politique du site, de laisser des contributions, la possibilité de contribuer ou pas. Mais c'est ça, c'est de penser tout le temps cette marge-là et ces écarts.
Patrice Pognon.
Je souhaiterais réagir à ce que vous avez dit. Il me semble que l'appareil informatique reste un outil. C'est toujours un outil. Alors, c'est un outil qui s'est complexifié, qui permet de faire des choses de plus en plus à la fois esthétiques, complexes. Et le langage dont vous parlez, il n'est pas au niveau, à mon avis, pas au niveau de l'appareil informatique, mais au niveau du résultat. C'est le résultat grâce à la complexité du système informatique qui permet d'exprimer un langage. C'est votre résultat. C'est en fait votre interface multimédia et autres qui elle, parle. Pas l'outil informatique. Lui, il ne parle pas. Il nous parle à nous en tant que spécialistes, mais il ne parle pas à l'extérieur. Je pense que c'est le résultat qui parle.
Dana ?
Oui, l'objet informatique, c'est un outil. Et il ne faut jamais oublier qu'un graphe reste un outil. Et un outil de travail, après, en confrontation, sur le terrain. Il faut toujours privilégier la méthodologie hybride. Il ne faut jamais penser que est délégué à la machine tout, justement. Au contraire, il faut que l'intelligence naturelle le reprenne. Je ne sais pas, même dans notre discours, hein, dans notre critique, un peu tout le rôle qu'elle a et un peu son positionnement et qu'on lui donne, l'attention qu'elle mérite aujourd'hui. On parle tellement d'intelligence artificielle, mon Dieu. Pour l'objet, pour les résultats, ce que j'ai pu observer, comment valoriser une recherche qui est mixte à la fois informatique méthodes informatiques, traces numériques, mais aussi observations, situations d'usage, etc. Et comment valoriser ensuite ça? C'est le travail du chercheur qui te donne la piste. Je sais pas, quand nous avons décidé d'imprimer quand même des cartes et après les expliquer via une application où chaque chercheur peut augmenter une carte par son explication vidéo que les gens peuvent travailler en classe avec ça, c'est parce que le chercheur l'imprimait lui aussi, il ne travaillait pas sur l'écran, il l'imprimait aussi, il dessinait à la main, il sortait avec le graphe imprimé sur papier pour rencontrer X, Y, Z, pour donner sens au graphe, etc. Donc, il faut... Je pense regarder de près, rester à l'intérieur de notre travail de recherche pour trouver les bonnes solutions, je ne sais pas, tant que pour la valorisation que pour l'usage du numérique, tant pour le patrimoine.
Je sais pas. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des réactions dans le public, de prise de parole? Non? Oui.
Question aussi sur une question des pistes de propositions, quoi. En tout cas, ce qui pourrait être les nouveaux outils, les boîtes à outils, en tout cas, des chercheurs qui seraient mises à disposition des projets de recherche aujourd'hui et demain. Enfin, ça, bon, je dis ça aussi en regardant Amou aussi, parce que c'est vrai qu'au sein de la FMSH, on travaille aussi sur ces questions-là avec un ANR qu'on a eu qui s'appelle Archival aussi. On essaie de pousser en tout cas un certain nombre d'outils qui seraient proche d'outils un peu décentralisés. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au niveau de ce qui s'est passé avec ce que proposait Humanum, on était un petit peu comme avec les entreprises qui, à un moment donné, ont délégué aussi la gestion de leurs data à des organismes centralisés comme OVH, par exemple, ou des puissances de calcul, à des organismes un petit peu centralisés. Et on voit aujourd'hui de plus en plus, par exemple, avec l'émergence d'une nouvelle typologie de données avec l'Internet des objets, par exemple, tout ce qu'on appelle le edge computing aussi. C'est un web décentralisé qui est beaucoup plus local, sur des boucles de rétroaction beaucoup plus courtes, quoi. Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des modalités de travail, en tout cas au service de la recherche, qui seraient sur ce modèle-là aussi, avec des outils qui pourraient être en tout cas génériques dans le sens où ils sont mis à la disposition des publics de chercheurs ou des personnes qui participent à ces domaines de recherche, mais qui puissent être appropriés localement avec des boucles beaucoup plus courtes. Par exemple, on peut réfléchir aux technologies de smart contract, de blockchain, ou d'intelligence artificielle qui doivent être entraînées, en tout cas beaucoup plus localement, etc. Donc c'était un petit peu la question, parce qu'en tout cas, nous, on se la pose énormément aussi au niveau de la chaire UNESCO-ITEN et de la FMSH. Quelles seraient ces nouvelles formes d'outils, en tout cas, demain, aujourd'hui ?
Une réponse un petit peu courte, parce que le vin est encore frais, mais si vous êtes encore un peu plus loin, il va chauffer. Oui. Et je pense que la question de Renan sera une question vraiment à développer pour demain, mais... Okay. Vas-y, Marc, si tu veux.
Non, mais je veux bien répondre, ça va être très court. Je ne suis pas le représentant de la TGIE. Non, mais sérieux. Je me concentre plus maintenant sur cette idée, justement, je maintiens, de langage hypermédia et de savoir ce que je peux en faire pour le récit historique. Et donc, de langage hypermédia. C'est-à-dire que je maintiens qu'il y a quelque chose qui est un peu comme le cinéma. Il y a les caméras, c'est la technique, mais s'il n'y a pas le réalisateur derrière, on ne fera pas un film. Et c'est un peu ce que je recherche maintenant dans le domaine du numérique. Je suis moins sur l'innovation et plus sur le retour sur le discours, la mise en récit qu'on peut faire.
Alors, vu l'heure, clap de fin sur le film. Merci pour l'accueil de Corinne et merci à tous les intervenants, merci au public.